Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, comment expliquer le statut accordé à l'intellectuel à la française et l'hostilité que ce dernier s'attire? Cette question est au cœur de la haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France, un essai passionnant écrit par notre invitée Sarah Al-Matari, qui ajoute que, loin de n'être qu'un thème polémique de prédilection, l'anti-intellectualisme constitue une culture fondée sur des références, un imaginaire et des codes rhétoriques d'une grande longévité, fin de citation, où l'on découvrira aussi que les intellectuels ne sont pas les derniers à exprimer leur critique, voire leur haine à l'endroit d'autres intellectuels. Voici donc une nouvelle diffusion de ce numéro du magazine Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, des intellectuels donc, un magazine que vous pouvez retrouver sur notre site www.rfi.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Sarah Al-Matari.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir dans ce studio et de parler de votre travail qui est un travail considérable et un travail novateur car, curieusement, vous le notez d'ailleurs au début du livre, il y a très peu de travaux universitaires sur l'anti-intellectualisme.
Oui, c'est vrai, il y a des travaux qui portent sur l'anti-intellectualisme dans d'autres pays que le nôtre, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne ou les États-Unis, entre autres, mais curieusement, il n'y a pas jusqu'à présent, hors quelques articles et numéros de revues, d'ouvrages consacrés à l'anti-intellectualisme en France. Et on peut se demander pourquoi. Mon hypothèse, c'est que la place qu'on a donnée en France à la figure de l'intellectuel et un certain nombre de constructions qui font partie du grand récit national, la France pays, patrie des intellectuels, par exemple, la France de l'affaire Dreyfus, la France de Saint-Germain-des-Prés, la France
de Sartre, de Camus,
de Sartre, et puis on pourrait remonter, en fait, jusqu'aux Lumières et à la Révolution française, ont fait qu'on s'est interdit, tout simplement, de voir l'envers de cette médaille-là. Et voilà, mon postulat, c'est qu'il faut traiter les deux ensemble.
En tout cas, je suis vraiment ravi de parler de ce travail. Je ne vous ai pas présenté, je vais le faire maintenant. Vous êtes ancien élève de Normale Sup. Vous êtes maître de conférence en littérature à l'université Lumière Lyon 2. Et vous appartenez aussi à un labo de recherche. Il faut en dire un mot.
Oui, il faut dire un mot de l'IRIM, Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les modernités, qui est un laboratoire pluridisciplinaire ancré sur plusieurs sites, Lyon, mais aussi Saint-Étienne, entre autres, et qui regroupe des disciplines différentes, des littéraires, des gens qui travaillent sur les arts, mais aussi des philosophes et des linguistes.
Alors, Sarah, je vais vous poser la question qui est difficile, je le sais. Qu'est-ce qu'on peut définir ce qu'est un intellectuel, à vos yeux, pour qu'on comprenne bien votre démarche?
J'ai choisi volontairement dans ce livre, c'est peut-être critiquable, une définition très large de l'intellectuel afin de pouvoir saisir toutes les nuances de l'activité intellectuelle. Le livre commence avec la révolution industrielle et je suis partie de ce partage entre les intellectuels et les manuels, ceux qui travaillent de leurs mains et ceux qui travaillent de tête, comme on disait à l'époque. Évidemment, ce partage est contestable, puisque ceux qui travaillent de leurs mains font aussi appel à leur tête et il arrive aussi que les intellectuels soient obligés de travailler de leurs mains et se retrouvent prolétarisés. Et l'intérêt du livre, me semble-t-il, c'est de travailler en fait sur ces nuances, sur les entre-deux, les interstices, pour montrer comment finalement l'anti-intellectualisme, c'est une sorte de stratégie de positionnement, de personnalité qui se retrouve souvent entre deux états, entre deux positions, et on pourra peut-être revenir sur la question du déclassement qui est assez centrale.
Et on va reprendre quelques portraits que vous faites d'intellectuels, car il faut noter tout de suite, Sarah Al-Matari, que vous parlez surtout d'intellectuels qui critiquent d'autres intellectuels.
Oui, le livre est consacré à l'anti-intellectualisme des lettrés. Lettrés au sens large, parce qu'il y a aussi un certain nombre de figures d'ouvriers, d'artisans, de militants syndicaux, qui ne sont pas des intellectuels d'État, mais parce qu'ils ont un métier lié au livre. Par exemple, il y a un certain nombre de typographes qui apparaissent ou de compositeurs, ou parce que ce sont des militants habitués à la parole publique, parce qu'ils interviennent dans des AG tout simplement, ou qu'ils écrivent dans la presse. Ils ont un rapport privilégié avec le monde de la culture et des idées. Et ils se positionnent contre d'autres qui considèrent plus établis, qui ont des liens, selon eux, plus forts avec le pouvoir.
Et ce qu'il faut noter aussi pour bien comprendre votre démarche, qui est encore une fois très, très novatrice et passionnante, Sarah Almatari, c'est que vous, vous parlez de l'anti-intellectualisme au nom de la raison. Il ne s'agit pas de rejeter tout le travail intellectuel, mais en quelque sorte de critiquer les intellectuels parce qu'ils sont, comme on dit aujourd'hui, et pour simplifier, formatés.
Oui, j'ai voulu insister sur un certain nombre de paradoxes, et celui que vous soulevez est absolument central dans le livre. Je voulais démontrer que l'anti-intellectualisme, qui dans le domaine philosophique est souvent associé à raison, à l'inconscient, au sentiment, à l'exaltation de la nature, de l'instinct, est aussi mobilisé par des intellectuels au nom de la raison, que ce soit à gauche, à l'extrême gauche, ou à droite et à l'extrême droite.
Alors votre livre, le titre du livre, La haine d'Éclair, me fait penser à un autre livre de Julien Benda, La trahison d'Éclair. Il y a un petit clin d'œil.
Oui, alors je dois cet excellent titre, avouons-le, à mon éditeur Bruno Auerbach,
qui a le rôle des éditeurs peut-être.
Ah oui, il a eu cet éclair de génie. À vrai dire, on peinait un peu à trouver un titre, et puis finalement ce titre s'est imposé. Aujourd'hui, il semble évident. C'est effectivement une référence à la trahison d'Éclair de Julien Benda, avec une petite différence quand même, c'est qu'ici, dans la haine d'Éclair, il s'agit de traiter à la fois de la haine envers l'éclair et de la haine d'Éclair eux-mêmes, celle que l'éclair manifeste envers leurs semblables.
Oui, parce qu'il faut dire que Julien Benda critiquait les intellectuels qui s'écartaient justement de leur travail d'intellectuel.
Oui.
Et qui se fourvoyaient dans l'idéologie.
Exactement, ceux qui avaient renoncé à l'universel, ceux qui avaient renoncé aux valeurs abstraites de la justice, du droit, de l'équité, pour s'engager sur le terrain finalement du temporel. Et c'est évidemment une thématique qui est présente dans le livre.
Alors ça, donc la France n'est pas la patrie des intellectuels.
Et là,
on m'avait déçu.
Il faut qu'on en fasse notre deuil collectivement. Non, plus sérieusement, il ne s'agit pas avec ce livre de dire que la France n'est plus la patrie des intellectuels, mais celle des anti-intellectuels ou des anti-intellectualistes, mais d'envisager bien en tension les deux et de montrer comment le grand récit national, ce mythe de la France intellectuelle, s'est construit, non sans hostilité, depuis la Révolution française. Et finalement, c'est un mythe assez récent que je travaille en fait à déconstruire ou en tout cas à éclairer dans cet ouvrage.
Alors, vous précisez bien, on va parler du début de la Révolution industrielle, du début de votre livre, en parlant de Proudhon notamment, qui a une place importante dans votre analyse. Il faut préciser que cette notion d'intellectuel est née précisément avec la Révolution, où l'on a, et vous le rappelez très bien, mêlé la notion de citoyenneté à l'éducation.
Oui, la Révolution implique tout un travail de pédagogie, avec cette idée qu'il faut que tout citoyen français, révolutionné, émancipé, soit capable de lire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de s'en saisir. Alors il y a deux conceptions qui s'opposent, c'est Mona Ozouf qui les a décrites notamment, conception miraculeuse ou conception laborieuse. La conception miraculeuse, c'est l'idée que voilà, l'événement révolutionnaire suffit et que tous les individus vont être révolutionnés du seul fait de l'apparition de cet événement. Et puis la conception laborieuse qui finalement a primé, c'est l'idée d'un accompagnement ce peuple. Et cet accompagnement, ce sont les élites qui sont chargées l'apporter. Mmh. Et donc en particulier ceux qu'on ne nomme pas encore les intellectuels. Donc c'est un peu la base de notre contrat social, ça. Et aujourd'hui, ce contrat est contesté.
Est en question.
Oui, et fragilisé.
Alors, pourquoi commencez-vous votre livre très riche par Pierre-Joseph Proudhon ? C'est lui le premier qui commence à faire le distinguo entre ceux qui pensent et les manuels ? Non, c'est plus compliqué que ça.
Oui, en réalité, le livre ne commence pas exactement par Pierre-Joseph Proudhon, il commence par Agricole Perdiguier. Mais
oui. J'ai oublié, oui, qui était un ouvrier député, c'est ça ?
Un des rares députés ouvriers autour de 1848, la révolution de 1848. Mais Perdiguier est là en fait pour montrer qu'il y a en quelque sorte des traductions d'anti-intellectualisme non proudhonien, puisque Proudhon est important en tant que tel, parce que l'anti-intellectualisme occupe une place centrale dans son œuvre, mais aussi parce qu'il va déterminer un certain nombre de filiations à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Et il y a notamment un texte important de lui que je cite, en fait, Les Femmelins. C'est un texte où il attaque les romantiques, où il dévirilise un certain nombre d'écrivains romantiques, hommes et femmes d'ailleurs. Et ce texte va avoir une postérité importante, notamment chez les militants d'Action française dans les années 1910.
Alors pourquoi le fait-il, Proudhon ? Pourquoi veut-il déviriliser, je reprends votre expression, les romantiques, par exemple ?
Ça fait partie d'une critique plus globale de l'intellectuel. Pour Proudhon, en fait, le monde est partagé entre intellectuel et manuel, depuis la nuit des temps, d'une certaine manière. Et sur ce partage immémorial, qui pour lui est un partage d'essence religieuse, qui correspond au partage entre le corps et l'âme, se sont greffées des injustices sociales. Et ces injustices sociales, au XIXe siècle, sont toujours très palpables, et il les remet en question. Et il voudrait en fait un rééquilibrage des forces.
Alors il faut préciser, XIXe siècle, c'est le positivisme, c'est la foi absolue au progrès, et donc ce qui compte, ce qui commence à compter davantage, c'est l'économie, le travail, l'activité manuelle.
Oui, c'est capital, le livre s'ouvre sur ça, et d'ailleurs je cite aussi non seulement Proudhon, mais Marx, en expliquant que sa première définition de la lutte des classes est fondée en fait sur le partage entre intellectuel et manuel. Et finalement, en fait, il va renoncer à cette définition-là, mais l'économique qui est centrale. Et tout au long du livre, on croise une série d'acteurs, notamment chez les syndicalistes révolutionnaires, hein, les syndicalistes d'action directe avant la Première Guerre mondiale, qui mettent en avant l'idée que c'est l'économique qui doit primer sur le politique et qui, de ce fait, critiquent un certain nombre d'intellectuels qui sont rangés, eux, du côté des rapports politiques et du symbolique.
Ça rappelle quelque chose de très contemporain, Sarah Almatari, cette notion d'économie qui prime sur le reste.
Ah oui, bah, je pense qu'on n'en est pas sorti. Oui. Je pense que la lutte des classes continue. C'est évident.
Alors, il y a un autre personnage. On va parler, s'arrêter sur l'affaire Dreyfus qui est sur Émile Zola qui constitue un tournant sur ce sujet des intellectuels et des anti-intellectuels. Mais en parlant d'hommes engagés de l'époque, du début du 19e siècle, enfin, quasiment de l'ensemble du siècle, il y a Jules Vallès aussi que vous citez, que vous mettez en avant.
Le cas de Jules Vallès est assez intéressant. Alors d'abord parce que c'est un disciple de Proudhon, oui, dont on parlait, et que Vallès en fait va acquérir une certaine notoriété. Il va même arriver à entrer à la Société des gens de lettres en 1865. Et cette année-là s'opère chez lui une sorte de basculement. Il va devenir anti-intellectualiste au moins je l'entends, c'est-à-dire ne pas se contenter de dénoncer les professeurs comme le faisait toute une littérature potache, mais mettre en place une forme de dénonciation globale de la prolétarisation des lettrés. Il y a une figure très importante dans son œuvre qui est celle de l'étudiant pauvre. Et ce que j'essaie de démontrer,
c'est la prolétarisation des bacheliers, dis-nous.
Oui, la prolétarisation, ouais. C'est l'expression consacrée, ouais, à l'époque. Et j'essaie de démontrer que malgré lui, Vallès en fait a mis en place un mythe qui est celui de l'étudiant déclassé, de l'étudiant prolétarisé, de l'étudiant bohème, qui va être utilisé plus tard contre cette même population.
Alors, Jules Vallès, qui était il faut le rappeler, un écrivain engagé.
Oui, il a participé à la Commune, il a même fait partie du gouvernement de la Commune, et il en rencontre notamment dans une trilogie autobiographique, enfin d'inspiration autobiographique, où il raconte en fait sa propre enfance et son rapport avec notamment son père, qui était un professeur déclassé, puis ses difficultés en fait pour se placer en tant que bachelier.
Il faut lire par exemple L'Insurgé.
Oui, il faut lire L'Insurgé, qui est l'aboutissement en fait de cette trilogie, mais aussi les volumes antérieurs qui sont intéressants, notamment Le Bachelier, qui est très intéressant en fait pour notre problématique.
Alors, il y a un homme, un écrivain qui est emblématique là aussi, qui résume à lui tout seul en fait votre livre. Il fait partie des piliers de votre raisonnement, si je puis m'exprimer ainsi. C'est Émile Zola, dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Il est courant, très courant, de dire que les intellectuels français sont nés avec l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire l'engagement par le biais de tribunes dans les journaux, par exemple. Est-ce qu'on a raison de dire ça ?
On a raison de le dire, mais on ignore souvent que Zola a accusé les intellectuels avant l'affaire Dreyfus et la partie...
Et ça fait partie des choses enfin, que j'ai apprises dans le livre et qui sont assez étonnantes, c'est l'anti-intellectualisme d'Émile Zola.
Oui, alors l'idée aussi dans ce livre, c'était d'envisager les différents acteurs à différents moments de leur vie et de montrer qu'on n'est pas anti-intellectualiste de toute éternité et pour toujours. Mais dans le cas de Zola, l'idée c'était de construire ce mythe du Zola porte-drapeau des intellectuels, hein. C'est une réalité. Enfin, c'est
oui, il faut rappeler le J'accuse, voilà. Pour la défense de Dreyfus, ça a quand même joué un rôle essentiel. Mais avant, c'était pas
d'autant
comme ça.
Plus essentiel quand on l'envisage à la lumière en fait de la jeunesse de Zola. et des prises de position anti-intellectualistes de Zola, qui remontent à l'enfance. Je cite le fait que quand il était en sixième, il avait dit à son professeur avoir la sensation que le grec ne servait à rien dans la vie.
Alors bon, il y en a qui le disent aussi aujourd'hui. Hein.
C'est un peu anecdotique. Mais ce qui est plus important en revanche, c'est de voir comment Zola s'est construit un parcours de bâtisseur, de romancier bâtisseur, en hommage d'une certaine manière à la figure de son père défunt ingénieur. Et dans l'admiration de Louis Hachette, qui lui avait fourni un poste, il va développer toute une pédagogie anti-intellectualiste qui va lui permettre de se placer à l'avant-garde littéraire.
Ah oui, parce que lui, Sarah Al-Matari, l'auteur célèbre des Rougon-Macquart, de ces livres que je trouve formidables, le naturaliste, comme on le qualifie, lui, et Émile Zola, a, par exemple, dans Le Bonheur des Dames, mis lui aussi sur le devant de la scène littéraire, en tout cas dans ses livres, les chefs d'entreprise, comme on dirait aujourd'hui.
Oui. Quand on relit les Rougon-Macquart, on est frappé de cela. Il faut aussi relire les ouvrages antérieurs. Je cite Madeleine Ferrat, qui est un ouvrage peu connu, notamment parce qu'il a été occulté par Thérèse Raquin, qui le précède, et qu'on présente parfois comme le volume séminal qui donnera ensuite les Rougon-Macquart. Dans Madeleine Ferrat, en fait, il y a une véritable critique symbolique de la raison. Tous les personnages, en fait, périssent d'une certaine manière par la tête, si j'ose dire. Il y a une sorte de personnage de savant fou. Il y a un écolier qui subit des maltraitances et puis qui finit par se marier avec une femme dont il rend compte qu'elle a eu d'autres amants que lui. Et bon, je voudrais pas divulguer la fin du roman, mais enfin, c'est assez apocalyptique et tout accuse symboliquement la raison et le savoir.
Oui. Et vous parlez de Zola et vous parlez aussi au même moment de Maurice Barrès.
Oui, l'idée c'était là encore de travailler sur les paradoxes et l'inversion, c'est-à-dire Maurice Barrès, le grand nationaliste français qu'on associe aujourd'hui spontanément à l'anti-intellectualisme, a été aussi un grand défenseur de la raison, à différentes époques de sa vie. D'abord dans sa jeunesse, quand il était une sorte de figure qui exerçait un magistère capital sur la jeunesse des écoles, il est un des premiers à utiliser le mot d'intellectuel. Et sa première trilogie, la trilogie dite du culte du moi, cette première trilogie met en scène un jeune Français intellectuel qui s'appellera Philippe dans le troisième volume et qui va découvrir le nationalisme. Et lorsqu'il découvre le nationalisme, en l'occurrence c'est le nationalisme boulangiste du nom du général Boulanger dans les années 1889, il s'ouvre à l'inconscient, il s'ouvre au peuple. C'est un populisme, ce boulangisme, et il renonce quelque peu à ce qui faisait de lui un intellectuel, un analyste. Donc ça, c'est un premier moment où, en fait, Barrès passe de, on va dire, l'intellectualisme à l'anti-intellectualisme. Mais il y a aussi un deuxième moment, c'est la Première Guerre mondiale. Au moment de la Première Guerre mondiale, il faut mobiliser les élites, et notamment les élites savantes, pour fabriquer de l'armement. Il faut mobiliser ce que Barrès appelle l'intelligence française. Et je souligne le singulier parce qu'il oppose cela aux intelligences juives. Et le pluriel est très important parce que là, il marque son antisémitisme, cette peur de la prolifération, etc. Et là, Barrès va de nouveau, au nom de la raison, défendre les intellectuels. Dans un premier temps, les scientifiques, qu'on dirait aujourd'hui durs. Et puis finalement, même les professeurs trouvent à ses yeux une sorte de... d'absolution.
Alors, autre personnage célèbre dont on a déjà parlé dans cette émission, c'est Charles Péguy, qui, au nom lui aussi de la raison, là nous sommes également toujours à la jointure de la fin du 19e siècle et le début du 20e, qui au nom de la raison critique les intellectuels et plus précisément l'université. Vous publiez notamment une lettre qu'il écrit à un ami qu'il a fréquenté au lycée d'Orléans, rappelons que Charles Péguy est né à Orléans, où il dit « Mon cher, l'université cité n'est pas ce qu'un vain peuple pense et la philosophie est une triste chose. Le mieux est de croire sans preuve et d'agir au lieu de rêver et de philosopher. » Lui, c'est le critique d'une institution, en quelque sorte.
Oui, alors on connaît surtout Péguy pour avoir été celui qui a diffusé l'expression de parti intellectuel qui renvoie à l'image de la secte ces intellectuels. Mais on oublie souvent que très tôt, le jeune Péguy avait manifesté une sorte de méfiance vis-à-vis de l'institution. Il a même une sorte de velléité coloniale au moment où il écrit cette lettre, puisqu'il souhaite partir en Algérie. À cette époque, il pratique beaucoup de sport, etc. Et finalement, ce que je montre, c'est que en dépit de cela, il va avoir toujours un rapport assez ambigu à l'université, lui-même cherchant à se placer, puisqu'il est tout de même normalien, il va tenter de passer l'agrégation, il va même tenter de faire une thèse et d'avoir un poste, mais il n'y parviendra pas. Alors est-ce que c'est par ressentiment ? Je crois que c'est pas simplement par ressentiment, mais il va être amené en fait à adopté une position anti-intellectualiste. Chez lui, ce qui prime, en fait, c'est l'idée que le travail intellectuel doit être aussi un travail artisanal. Et c'est pour ça qu'il va développer sa propre librairie, une librairie, en fait, où celle des cahiers, des cahiers de la Caserne.
Qui l'a porté à bout de bras et qui constitue encore une référence.
C'est une référence, et ça va être une référence pour les anti-intellectualistes qui vont suivre, qui vont construire le mythe Peggy, le mythe du Peggy qui s'est fait à la force du poignet, fils d'une rempailleuse de chaises, boursier méritant, etc. En réalité, quand on regarde les archives, on se rend compte que sa mère avait déjà gravi les échelons, qu'il n'était que demi-boursier, etc. Ce qui n'enlève rien à son mérite, bien entendu, mais c'est intéressant de voir comment cette figure que Peggy lui-même a contribué à construire, cette figure de l'intellectuel artisan qui travaille de ses mains, qui crée des livres, qui les fabrique, a perduré et est devenu un symbole. Certains peignent d'ailleurs Peggy en nouveau Proudhon.
Vous êtes vraiment une destructrice de mythes, hein?
Ça m'amuse.
Ça vous amuse. Peggy qui disait aussi, j'aimerais mieux rater ma carrière que de mettre, soit dans un concours, soit dans une composition d'entrée anormale, normal sup, une opinion qui ne serait pas la mienne. Quel orgueil.
Oui, orgueil, distance vis-à-vis des concours. Cette distance, on la retrouve chez d'autres. On l'avait déjà chez Zola, d'ailleurs, vis-à-vis du baccalauréat, vis-à-vis du diplôme aussi. L'idée que finalement, ce n'est qu'un petit bout de papier qui ne dit rien du talent réel.
Ouais. Alors, je continue à feuilleter devant vous le livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Au chapitre 4, vous écrivez ceci, Sarah Almatari. Bourget, Peggy, Maurras, Nizan, Paul Nizan et Céline font des nuées d'Aristophane une référence privilégiée du discours anti-intellectualiste. Il faut rappeler ce qu'est cette pièce d'Aristophane qui règle ses comptes. Je crois que c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec les intellectuels, enfin les sophistes et même Socrate.
Oui, une pièce assez curieuse aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des débats entre critiques pour savoir quel est le sens réel de cette pièce. Aristophane met les intellectuels, tous les intellectuels, dans le même panier. Et c'est un panier réel, un panier suspendu.
Il est ridicule, oui, en plus.
C'est un panier suspendu. Ouais. En fait, il représente les intellectuels déjà comme des gens qui sont coupés du réel, qui sont des brasseurs de nuages, des gens qui sont, on dirait aujourd'hui, tête en l'air. Et donc, il le représente matériellement, hein, sur la scène, matériellement, puisqu'ils sont situés. Et on va retrouver toutes ces métaphores dans l'histoire de l'anti-intellectualisme, et notamment au 19e et au 20e siècle.
Oui, ça reste toujours le cas. Hein, quand on parle des intellectuels, c'est toujours des gens coupés des réalités, pour certains.
Ça revient à cet argument, en fait. Hein, cette manque de prise avec le réel, ce manque de rapport organique à la société. Bon, on l'a entendu encore avec la crise des Gilets jaunes récemment.
Alors, il y a aussi dans ce livre une analyse, et j'ai l'impression que il vous intéresse particulièrement, des anarchistes, en fait, et leur position par rapport à l'activité intellectuelle.
Oui, j'ai une tendresse particulière pour ces anarchistes
qui
sont représentés à différents moments du livre. Alors, il y a une première génération, si j'ose dire, ce sont les anarchistes de la propagande par le fait, des années 1890, les anarchistes qui, pour certains d'entre eux, ont commis des actes terroristes, auxquels on va reprocher d'être les fruits d'une société qui n'a pas su les éduquer. Ce sont des anarchistes qui, pour certains, ont pu aller... au moins de manière passagère à l'école, et on considère en fait qu'ils ont mal digéré leur lecture, qu'ils n'étaient pas en mesure, de par leurs origines sociales, de bien comprendre en fait ce qu'on leur a appris, et que c'est la raison pour laquelle en fait ils ont dévié, ils en sont venus à commettre des actes irréparables. Donc ça, c'est un premier élément qui est inclus dans le chapitre sur la prolétarisation et la démocratisation en fait des intellectuels, à la fin du 19e siècle. Deuxième peut-être moment, l'affaire de la bande à Bono. Je m'attarde pas, mais il y a un personnage qu'on connaît, c'est Raymond Caillemin, dit Raymond la Science, qui était aussi surnommé Face à lunettes.
Et on va c'est tout dire. Hein.
Voilà, on va reprocher en fait lors de leur procès, comme on l'avait reproché aux anarchistes de la propagande par le fait d'ailleurs, à ces anarchistes d'être finalement très arrogants, de se réclamer en fait de l'intellectualité alors qu'ils commettent des actes qui semblent là encore irréparables. Et puis peut-être le plus important pour moi, ce sont les anarchistes individualistes des années 1905-1910 qui, eux, vont mettre en place des pédagogies alternatives fondées sur des manuels propres, fondées sur des structures propres, soit de petites colonies, soit des structures d'enseignement à part. Il ne s'agit surtout pas de mettre ces enfants à l'école laïque.
Surtout pas.
On aurait pu croire que les anarchistes très opposés à l'éducation catholique couraient mettre leurs enfants à l'école publique, laïque. Mmh. Non, pas du tout, au contraire, parce qu'ils considèrent que l'école laïque est un foyer où on fabrique de bons petits soldats, en fait, des patriotes, et que finalement tout l'enseignement y est fondé sur l'abstraction, que ce soit l'abstraction mathématique ou les valeurs morales qu'on y inculque.
Alors à propos de bourrage de crâne, en quelque sorte, parlons un instant du tournant que constitue la Grande Guerre, 14-18, vous écrivez, Sarah Al-Matari, la guerre fait trembler sur ses bases le culte positiviste établi par la République, et là s'engage, dans le milieu des intellectuels, une grande discussion autour justement de la liberté de penser et du bourrage de crâne imposé par la guerre.
Oui, alors il y a cette critique-là, et puis il y a aussi la critique d'un certain nombre de figures, la figure du bourgeois embusqué, qui parfois est confondue avec celle de l'intellectuel, hein, planqué, on dirait aujourd'hui, et puis la figure aussi de l'intellectuel malhabile, celui qui se retrouve dans les tranchées, alors souvent avec un grade d'officier, mais qui finalement est en position de faiblesse, ne sait pas faire grand-chose et dérange plus qu'autre
boulet,
chose.
Un boulet, en quelque sorte, sans mauvais genou.
Voilà, sans mauvais genou. Et je donne un exemple très intéressant, un exemple qui a été analysé précisément par des gens comme Nicolas Mariot, c'est l'exemple du sociologue normalien Robert Hertz, qui se retrouve en fait dans les tranchées, sur le front, et qui va se remettre en cause et développer toute une pensée anti-intellectualiste. Sa femme, Alice, est pédagogue, et ils ont un échange de lettres ensemble où ils réfléchissent à la manière, en fait, de promouvoir des pédagogies plus adaptées, plus concrètes après la guerre. Malheureusement, il n'en reviendra pas.
La parole à ceux qui pensent le monde.
Alors après la guerre, en tout cas au début du XXe siècle, Sarah Al-Matari, il y a aussi une vive discussion que vous développez très précisément au sein des écrivains catholiques, qui eux aussi sont touchés par cette critique contre les intellectuels.
Oui, il y a différents types de débats. Un des débats les plus importants, me semble-t-il, c'est la question de la connaissance de Dieu. Peut-on vraiment connaître Dieu
par
la raison,
oui.
Par l'intelligence. Est-ce que la volonté, est-ce que l'amour, est-ce que l'intuition n'entre pas là-dedans? Et alors, il y a des débats théologiques assez précis sur ces questions-là. Et puis, dans d'autres milieux, alors je voudrais peut-être faire allusion en fait à ce qui m'est apparu comme le seul débat local sur l'anti-intellectualisme, c'est l'affaire dite de la Grande Chartreuse. La Grande Chartreuse, c'est le monastère que l'on connaît du côté de Grenoble. Il s'avère que...
Bel endroit, d'ailleurs.
Oui, de ce bel endroit ont été chassés les moines qui l'occupaient autour de 1903, et que le gouvernement radical projette d'y installer une sorte de sanatorium pour intellectuels fatigués. C'est l'expression qui est utilisée à l'époque. Levée de boucliers localement, notamment chez les membres d'une ligue catholique, hein, qui s'appelle la Ligue Dauphinoise d'Action Catholique, qui va organiser une campagne médiatique d'ampleur internationale contre ceux qui sont présentés comme des coucous. Les coucous, le coucou étant un oiseau qui
fait son nid,
chez les autres. Occupe le nid des autres.
Ouais.
Voilà, donc une polémique anti-intellectualiste locale qui va prendre des proportions considérables.
Et à l'époque, parmi tous les écrivains que vous analysez, il y a un homme célèbre et dont la pensée est importante, c'est Georges Bernanos.
Oui, je suis très attachée. À vrai dire, le livre et la genèse du livre est liée à Georges Bernanos.
On le sent parce que vous analysez quasiment tous ses livres.
Il m'a passionné. Vous savez, ce livre est né il y a à peu près 10 ans, en 2009, sous Sarkozy, et j'avais fait une intervention assez militante où je décryptais ses discours aux accents anti-intellectualistes. Et il s'avère que cette année-là, je faisais aussi un cours sur Bernanos et sur Sous le soleil de Satan. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, non pas qu'il y ait une concordance entre les deux, mais il y a peut-être une histoire anti-intellectualiste à écrire qui serait plus complexe qu'une histoire qui serait purement normative, qui attaquerait l'anti-intellectualisme d'extrême droite. Alors, chez Bernanos, la chose est vraiment complexe, puisque l'anti-intellectualisme apparaît assez tôt. C'est à la fois la critique de ceux qu'il appelle les docteurs, les cuistres, les savants, les analystes. Et puis, évidemment, ça a des accents religieux, puisqu'il développe une pensée qu'on pourrait qualifier de mystique. Une pensée, en fait, qui refuse les médiations dans la connaissance.
Avec notamment ce livre célèbre, La grande peur des bien-pensants, et toutes ces chroniques qui résonnent encore aujourd'hui, Sarah El-Matari, hein, sur l'évolution de la société, sur le machinisme, sur la situation sans, enfin, les sociétés sans âme.
Oui, que ce soit les chroniques du jeune Bernanos, celui qui est encore Camelot du Roi, qui fait partie de l'Action française, à l'avant-garde de Normandie dans les années 1910-1913, ou les chroniques, on connaît souvent mieux, du Bernanos exilé pendant la Seconde Guerre mondiale, les chroniques en fait brésiliennes, où là il va dénoncer, après avoir dénoncé les intellectuels fascistes, les intellectuels communistes, etc.
Alors, tout le monde y passe. Justement, Sarah, il faut aussi s'arrêter un instant sur les communistes, hein, la révolution russe 1917 et l'essor du Parti communiste et l'essor de l'influence, si je puis dire, du Parti communiste chez les intellectuels, en France notamment.
Oui, alors c'est le moment ouvriériste du livre. Je m'arrête sur plusieurs figures célèbres, celle d'Aragon, ses rapports conflictuels avec le surréalisme, le débat qu'il y a entre Aragon et Breton autour de la définition de la raison, parce qu'évidemment on a parlé en début d'émission de l'anti-intellectualisme tel qu'il était défendu au nom de la raison, mais tout dépend de ce qu'on appelle la raison. Et là, entre Aragon et Breton, il y a un vrai débat. Évidemment, pour Aragon, c'est la raison communiste, la raison dialectique, et pour Breton, c'est une raison en fait surréaliste qui fait table rase. Alors, il faut aussi ancrer ces expériences-là dans la postérité de la Première Guerre mondiale, puisque, on l'a dit tout à l'heure, c'est la Première Guerre mondiale qui fait éclater ce mythe du progrès positiviste et qui amène un certain nombre d'écrivains à se tourner vers l'anti-intellectualisme. On pourrait aussi citer Drieu-La Rochelle et Céline, Louis-Ferdinand Céline, ce sont tous d'anciens combattants.
Alors, nous y venons à Céline qui occupe une place importante, Louis-Ferdinand Céline, immense écrivain. Un personnage douteux, mais immense écrivain, qui lui s'est engouffré dans l'anti-intellectualisme. Un peu par rancœur, non ?
Alors, je me prononcerai pas sur la question de la rancœur. Peut-être, en fait, ce qui m'a surprise, c'est que l'anti-intellectualisme préexiste chez lui à l'antisémitisme et traverse la totalité de son œuvre, depuis Voyage au bout de la nuit jusqu'aux dernières interviews des années 50. Selon des modalités qui sont diverses. Il y a d'abord un anti-intellectualisme thématique. C'est tout simplement la critique du personnel intellectuel, et notamment des enseignants. Il y a aussi un anti-intellectualisme esthétique, qui va s'exprimer notamment à travers le style, ce style impertinent qu'on connaît bien. Et puis, il y a enfin un anti-intellectualisme de posture, qui est peut-être celui qui m'a le plus intéressé, oui, finalement, qui est celui du Céline, qui se met constamment en scène comme homme qui ne doit rien à l'école, qui d'ailleurs n'a pas de prétention à en créer une, qui n'a pas de livre chez lui, qui travaille beaucoup mais n'intellectualise rien, etc. Ouais. Et donc ces effets de posture auxquels se sont laissés d'ailleurs avoir pas mal de journalistes qui disent c'est fou ce type ne lit pas. Si, ce type lit, seulement il met en scène un personnage. Et puis il faudrait aussi dire un mot aussi de la reconstitution que fait Céline de son autobiographie, puisque Céline a eu un grand-père qui était professeur de rhétorique, il a eu un père qui était licencié de lettres, mais il va travailler à gommer tout ça, à quelques exceptions près, et à se présenter finalement comme le fils de ses œuvres.
Et il dénonce aussi assez tôt l'influence du communisme dans les esprits chez les intellectuels, notamment pour ne parler que d'eux. Et au retour d'un séjour en Union soviétique, il l'a tout de suite compris, hein, et ce qui s'y passait. Et là, il se livre à une charge de certains intellectuels qui sont communistes, hein, et qui ne veulent pas voir les choses. Et là, vous citez ce passage, et je voudrais le citer parce qu'en plus, il y a le style de Céline dedans. Il écrit « Il faut être intellectuel ». Intellectuel, c'est entre guillemets. Hein. « Il faut être intellectuel, éperdu dans les beaux-arts, ensaché depuis des siècles, embusqué, ouaté dans les plus beaux papiers du monde, petit raisin fragile et mûr, au levant des treilles fonctionnaires, douillé, fruit des contributions, délirant d'irréalité, pour engendrer aucune erreur ce phénoménal baratin ».
Je vous remercie de citer ce texte. C'est un texte important et peu connu, extrait, il me semble, de Mea Culpa 1936, qui est un pamphlet de Céline qu'on ne lit jamais. On parle beaucoup, en fait, de l'école des cadavres, Bagatelle pour un massacre, mais on parle jamais de Mea Culpa, qui est pourtant capital parce que c'est un texte de transition en ce qui concerne l'anti-intellectualisme de Céline, où il va dénoncer de manière très lucide le fait que, pour lui, les soviets ont créé un régime oppressif fondé sur la bureaucratie qui est pour lui un régime d'intellectuel. Et c'est très intéressant parce que à cette époque-là, on aurait pu imaginer que Céline se rapproche des communistes, tous les deux d'ailleurs, enfin les communistes et lui se réclament d'ailleurs de l'authenticité. Sauf que c'est pas le même type d'authenticité. Et la différence fondamentale, c'est que les communistes sont des optimistes révolutionnaire, Céline est un pessimiste qui, lui, ne se réclame pas de la classe et n'a pas d'ambition révolutionnaire. Voilà, donc deux anti-intellectualismes qui sont concomitants, mais qui ne prennent pas du tout la même direction.
Pessimiste un peu paranoïaque.
Délirant. Oui. Alors, c'est ce qui rend aussi difficile l'analyse de son œuvre, vous savez, parce qu'on a des personnages d'anti-intellectualisme, mais comme souvent dans les fictions, et ça vaut aussi pour les pamphlets, on ne sait pas vraiment qui parle. Est-ce que c'est Céline qui parle ? Est-ce que ses alter-ego sont vraiment le reflet de sa pensée ? Voilà, c'est tout ce qui fait la complexité, la richesse de la pensée de Céline.
Alors, il avait de nombreux ennemis, notamment Sartre, hein, qu'il a appelé l'agité du bocal.
Ouais. Il y a des polémiques, en fait, qui sont beaucoup plus tardives entre tous les deux, même si des rapports entre les deux sont attestés. Alors là, peut-être, donc, règlement de compte, frustration, je ne sais pas, dans les années 50.
Sarah Almatari, continuons à parcourir ce livre. Je le répète, ça fait peut-être 10 fois que je le dis depuis le début de l'émission, mais je le crois vraiment qui est absolument passionnant. Vous attardez évidemment sur l'impact de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, sur le totalitarisme, le poids des nazis, la collaboration, qui là aussi a joué un rôle dans ce débat contre les intellectuels.
Oui, j'évoque les autodafés aussi, les nazis apparaissant, on parlait des communistes, comme des brûleurs de livres. Et c'est peut-être important de rappeler que finalement le mouvement anti-intellectualiste des communistes français dure peu de temps, parce que dès lors que l'antifascisme se développe, les communistes vont prendre le parti des bibliothèques de Moscou, c'est leur expression, contre les bûchers de Berlin.
Ouais. Voilà. Alors, il y a l'après-guerre, les années 50, qui ressemblent étrangement, par bien des aspects, sur la question que nous abordons à l'époque actuelle, parce qu'il y a un certain Pierre Poujade, qui devient, dans les années 50, le chef de file des anti-intellectuels, ouais, pour d'autres raisons aussi, d'ailleurs.
Le papetier Pierre Poujade, ancré localement à Saint-Céré. Alors, c'est intéressant de rappeler que cet homme avait une petite librairie, donc oui, il est encore lié au métier du livre, et pourtant, il va apparaître comme l'une des principales figure de défense de l'anti-intellectualisme, un anti-intellectualisme du bon sens, un anti-intellectualisme corporatiste.
Mais ça, c'est intéressant. Ça, souvent, les intellectuels, on critique les intellectuels parce qu'ils seraient dénués de bon sens.
Oui. Alors, lui, il se réclame du bon sens, un bon sens terrien, ancré localement, et il va défendre, il va créer en fait un mouvement de défense des artisans et commerçants, qui va prendre de l'ampleur, qui va se politiser progressivement. Et un de ses ennemis, ce sera par exemple De Gaulle. De Gaulle qui, dans ses années, fait figure d'intellectuel parce qu'il a publié ses mémoires, parce que, voilà, c'est un homme de culture. Et donc, les Poujadistes vont travailler sur cette opposition entre Monsieur Poujade, qui est en quelque sorte Monsieur Tout-le-Monde, qui est parfaitement à l'aise. Alors, il y aurait des choses à dire aussi sur l'éloquence anti-intellectualiste. Comment on représente le leader, le leader. Ça, c'est vrai, d'ailleurs, dès la Seconde Guerre mondiale, chez des gens comme Rieu La Rochelle qui sont des propagandistes du mouvement doriotiste, où on voit Doriot qui transpire beaucoup. Ah, il transpire beaucoup, et ça, évidemment, c'est une qualité pour les anti-intellectualistes. Et Rieu La Rochelle est juste gêné par une chose, c'est que Doriot porte des lunettes. Et donc là...
D'ailleurs, sur la couverture de votre livre, il y a des lunettes au verre cassé, ça
dit long. Oui, c'est capital pour moi. Ça thématise une chose. D'abord, le fait que c'est un livre sur les gens qui détestent les livres ou ceux qui prétendent qu'il existe de mauvais livres ou de mauvais lecteurs. Et puis surtout, j'ai voulu que cette image figure en couverture parce que dans les caricatures d'intellectuels, la seule chose qui les distingue, c'est souvent le port des lunettes. C'est très difficile, en fait, de représenter de manière iconographique un intellectuel sans ses attributs. Et en général, ce qui distingue l'intellectuel, ce sont les piles de livres et les lunettes. Et donc, il y a beaucoup à dire, en fait, sur ces lunettes brisées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 19e siècle, le seul fait de porter des lunettes pouvait vous condamner au chômage quand vous étiez ouvrier.
Sarah Al-Matari, vous développez aussi à la fin du livre la période contemporaine, vous parlez de l'Algérie, hein, aussi d'un certain Jean-Marie Le Pen, hein, de ses propos contre les intellectuels, ça n'a pas changé de père en fille. Il y a 1968, hein, l'éducation nationale, hein, cette critique.
Alain Gesmar, qui ensuite va devenir d'ailleurs lui-même ministre, il me semble, enfin si ce n'est ministre, en tout cas conseiller.
Qui jouera un rôle important.
Un rôle important dans l'éducation, oui. Bon, ça c'est un moment intéressant où on essaie en fait de remettre en question l'organisation institutionnelle de l'éducation nationale et de mettre en place une autre forme, une forme alternative d'éducation où les éducateurs seraient aussi éduqués et auraient à apprendre des apprenants. Voilà, on essaie en fait de bouleverser les hiérarchies établies et on réfléchit à la manière de le faire aussi hors de l'université.
Et vous attardez aussi sur le tournant du millénaire, le début des années 2000, qui constitue pour vous aussi un tournant dans dans ce débat sur les anti-intellectuels.
Oui, c'est un moment important. Certains observateurs ont dit que la lutte des classes remplacée l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle avait été remplacée par l'anti-intellectualisme. Et ce que j'ai étudié dans ce chapitre, c'est essentiellement l'apparition massive de cette étiquette anti-intellectualiste dans le débat et notamment dans les articles de presse. Comment en fait cette étiquette était partout et comment elle circulait dans ces années-là.
Ce qui n'est pas un bon signe.
C'est le signe d'une banalisation et du fait qu'on analyse les choses de manière systématique à l'aune de ces catégories-là.
Alors pourquoi vous en prenez à notre ancien président Nicolas Sarkozy qui n'aimait pas la princesse de Clèves?
Bah, il a donné les verges pour se faire battre, je crois.
Il a relancé en tout cas les ventes de la princesse de Clèves et qui a gagné d'autres lecteurs contemporains, notamment dans les classes.
Oui, sans doute. D'ailleurs, il me semble qu'il est revenu sur les propos qu'il avait tenus.
Il a dit qu'il avait regretté, effectivement.
Oui, qu'il avait regretté ça. Puis après, un peu comme Céline, il s'est mis en scène en grand lecteur. J'ai vu ça. Mais ça, c'était après avoir été président.
Mais ça, ce qu'il avait dit initialement était quand même intéressant. C'est-à-dire, et là, c'est une résurgence de quelque chose que vous avez déjà expliqué et qui remonte à loin. C'est-à-dire que en fait, pas la peine de lire. Il faut gagner sa vie, il faut gagner de l'argent, et puis c'est pas nécessaire de lire les classiques.
Oui, le livre d'ailleurs s'ouvre sur Christine Lagarde, qui faisait partie de son gouvernement, et qui dit en substance « Le travail paie, mais la France est un pays qui pense, retroussons nos manches, assez lu, assez tergiversé, je cite de mémoire. » Donc oui, il y a cette volonté d'action libérale, et ça a eu des conséquences très concrètes pour nous, enseignants-chercheurs, c'est que ça s'est accompagné de programmes qui ont abouti à la casse de l'université. Donc, il y a peut-être une sorte de réflexe corporatiste dans les pages que vous citez, mais enfin, voilà, c'est intéressant de voir comment ces pages s'inscrivent dans le prolongement de discours qui s'étaient tenus notamment chez les nationalistes français, et j'insiste sur le fait que c'est Henri Guénaud, une des plumes de Nicolas Sarkozy, grand lecteur de Maurice Barrès mais aussi de Charles Péguy, qui est le rédacteur d'un certain nombre des discours anti-intellectualistes que j'analyse.
Et aujourd'hui, d'évidence, Sarah Al-Matari, il ne fait pas bon être un intellectuel parce qu'on est la cible de multiples critiques dans le milieu intellectuel, notamment de quelqu'un qu'on a invité ici, qui s'appelle Michel Onfray.
Oui, alors je consacre aussi un très long développement.
À Michel Houellebecq aussi.
Oui, alors un mot quand même sur Onfray. Onfray est très intéressant parce que c'est peut-être d'ailleurs un des seuls dans le livre à développer à la fois un anti-intellectualisme polémique fondée sur la critique du personnel intellectuel et spécifiquement chez lui sur celle des enseignants-chercheurs et des chercheurs du CNRS et un anti-intellectualisme philosophique.
Il est fier d'être à la marge de ce système. Hein.
Oui, enfin c'est ce qu'il dit. Disons qu'il a fait partie du système et puis quand il a eu assez d'argent pour pouvoir s'en extraire, il s'en est extrait. Peut-être que d'autres auraient aussi envie de le faire. Non, ce qui est intéressant, c'est que chez lui, il y a un véritable anti-intellectualisme philosophique, un hédonisme qui présente comme solaire et qui est amené à lutter, selon lui, contre les ténèbres scolaires. Vous voyez, on retrouve un petit peu le lexique d'Aristophane dans les nuées. Et donc voilà, je décortique un petit peu les présupposés de l'installation des universités populaires qu'on aurait pu croire dans le sillage des universités populaires dreyfusardes et qui voilà, en fait est une petite usine qui fonctionne très bien et où s'exprime parfois une forme d'anti-intellectualisme.
Alors donc l'argument aussi de Michel Onfray, c'est de dire que les intellectuels français constituent un cénacle, un petit cercle parisien, que lui est en loin de cela, est à Caen, en Normandie. Même chose un peu de Michel, sous la plume d'un romancier, cette fois Michel Houellebecq.
Oui, alors peut-être un mot quand même pour rebondir sur ce que vous dites, Donfray, il a tout à fait raison, c'est vrai qu'il est à Caen, mais la centralité qu'il a acquise est une centralité toute parisienne. On sait très bien qu'on est dans un pays qui est hyper centralisé, où les médias, la promotion, Paris, tout est à Paris, les éditeurs aussi, donc voyez un petit peu le paradoxe qu'il y a à se placer en marge dans ces conditions. Un mot sur Houellebecq, alors Houellebecq c'est finalement un peu plus complexe, je l'ai rapproché de Michel Onfray parce que ils ont été ennemis à un certain moment, et puis finalement ces deux ennemis se sont rapprochés. Houellebecq, lui, il a la particularité d'être anti-intellectualiste, si je puis dire, sur le plan théorique, au sens où, tout en étant un grand défenseur de la technique et un grand défenseur du progrès scientifique, lui-même est ingénieur de formation, il a écrit un texte qui s'appelle « Sortir de l'intelligence », où il défend ce qu'il appelle l'intuition et la poésie. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il s'est montré extrêmement hostile à l'intellectuel droit de l'hommiste, ce sont ses mots, post-1945, qui reste optimiste malgré les grandes catastrophes, la Shoah et les catastrophes nucléaires.
En tout cas, cet anti-intellectualisme que vous avez développé dans cette émission, et surtout dans le livre, Sarah Al-Matari, est un type de pensée qui se nourrit sur le plan intellectuel. Je cite à nouveau la phrase que vous avez publiée dans le livre, que je mettais en exergue. « Loin de n'être qu'un thème polémique de prédilection, l'anti-intellectualisme constitue une culture fondé sur des références, un imaginaire et des codes rhétoriques. » Oui. Effectivement, il y a un corpus. Permet de nourrir.
C'est capital pour moi parce que, vous voyez, spontanément, quand on parle d'anti-intellectualisme, on a tendance à penser à une haine de la culture. La table rase, l'autodafé, les brûleurs de livres. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. L'anti-intellectualisme est une culture à part entière, une culture alternative qui propose ses propres modèles, mais des modèles qui s'inspirent de la culture existante, de la culture dominante. Et on voit bien d'ailleurs comment les références circulent dans le livre. C'est pour ça que j'ai choisi un modèle circulatoire avec retour des acteurs. Oui. On voit très bien les déplacements et parfois les contradictions des différents personnages qui sont mobilisés.
Et ce qui veut dire que, il faut le répéter aussi, qu'il ne s'agit pas d'un anti-intellectualisme, d'un rejet des intellectuels.
Non,
c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Finalement,
c'est pas la
rare
critique que l'on voit souvent chez certains, c'est-à-dire il faut vraiment arrêter de penser et faire autre chose. Non,
c'est finalement très rare. Vous savez, si je devais résumer ce livre, je dirais que finalement l'anti-intellectualisme, c'est moins une lutte contre l'intelligence qu'une lutte pour l'intelligence sociale et pour le monopole de l'intelligence. Ouais. Parce qu'évidemment, il est rare que les acteurs se définissent comme des êtres stupides ou imbéciles.
Mais dans un sens, on peut dire qu'il est bien qu'il y ait ce débat qui montre qu'il y a débat, justement, et qu'il y a un milieu intellectuel.
Oui, j'espère qu'on retiendra de ce livre que la démocratie aussi s'est nourrie de cette opposition aux intellectuels et que cette démocratie, elle est née aussi de la confrontation et du conflit. Voilà, c'est un livre d'une certaine manière très conflictuel qui décrit des polémiques, mais je crois vraiment que la vie intellectuelle se nourrit de ces polémiques et qu'elle n'existe pas sans cela.
Est-ce qu'aujourd'hui encore, là, en 2019, au moment où nous parlons, il existe encore ce débat, en fait, ou est-ce que les intellectuels sont définitivement condamnés?
Vous voulez dire, est-ce que les intellectuels participent au débat critique? Alors, tout dépend ce qu'on appelle intellectuel. Moi, je pense que... moi, je me reconnais pas dans cette étiquette d'intellectuel. Je pense qu'il y a des chercheurs, des gens qui proposent des instruments critiques pour déconstruire justement les évidences et déconstruire les lieux communs, les discours tout faits, et que c'est cela qu'il faudra encourager. Malheureusement, c'est pas forcément ces gens-là qui ont pignon sur rue et qui sont sollicités.
Alors c'est eux que nous essayons de mettre en valeur dans cette émission, justement, mais la critique récurrente, c'est de dire il n'y a plus d'intellectuels en France.
Oui, ça,
des intellectuels engagés.
Oui, alors peut-être que ces modèles sont révolus. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, le magistère tel qu'on l'a connu n'a peut-être plus de raison d'être. Ce qu'on cherche justement, c'est à créer des espaces de parole collectifs où justement pourraient s'exprimer des formes critiques, une forme de déconstruction, voilà.
Merci Sarah Al-Matari, je conseille vivement votre livre qui s'intitule « La haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France », publié aux éditions du Seuil, avec donc ses lunettes cassées, je le répète, tout un symbole. Il faut lire ce livre, surtout aujourd'hui, pour bien comprendre l'origine de cette d'une certaine forme d'anti-intellectualisme chez les intellectuels. Merci.
Merci à vous.
Idée, un magazine réalisé évidemment par Vanessa Rovensky. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante.
Idée au pluriel @rfi.fr.
Rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées. Nous serons en compagnie de Joseph Kessel grâce à Olivier Weber. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.